Audible Studio présente Les Chroniques de Nietzsche, tome 3 Le siège de pierre de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Chapitre 1er. Même si les émeutes étaient terminées, la cité d'Ile-Dakar continuait de brûler. Provoquée par le chef rebelle Masque Miroir, la révolte avait dévasté une bonne partie de la ville. Fous de rage, les gladiateurs, les négociants et les nobles détenteurs du don s'étaient entretués avec toutes les armes qui leur tombaient sous la main. Tandis qu'elle s'échinait à réparer les dégâts en compagnie de Nathan Rall, Nietzsche savait très bien que les troubles n'étaient pas prêts de finir. Mais les problèmes d'Ile-Dakar ne la concernaient plus. Si elle avait contribué à la libération de la cité opprimée, il reviendrait à ses habitants de la reconstruire. Les nobles, les esclaves, les travailleurs et les sorciers devraient oublier leurs dissensions et unir leurs efforts. Pour qu'une ville soit prospère, c'était indispensable. Dans l'empire d'Aran, très loin de là, Richard devait affronter la même tourmente, mais à une plus grande échelle. Chargé de faire connaître la parole du seigneur Rall partout dans l'ancien monde, Nietzsche ne pouvait s'attarder à Ile-Dakar, et ses compagnons, Nathan et Bannon, avaient aussi des fourmis dans les jambes. Durant les dernières heures de cette nuit, pourtant, la cité resterait la priorité de la magicienne. Criant des ordres, elle lança un groupe de citadins à l'assaut des flammes qui dévoraient l'entrepôt d'un prospère marchand de soie. Ravageur, l'incendie consumait les murs en bois, faisait exploser les fenêtres et s'attaquait déjà au toit. Ile-Dakar était réputée pour ses soieries, œuvres d'artisans de génie regroupées dans la guilde des soyeux. À présent, des centaines de rouleaux de soie d'une valeur inestimable disparaissaient en fumée.
Il faut circonscrire cet incendie avant qu'il se propage à d'autres bâtiments, dit Nietzsche aux citadins qu'elle avait rameutés.
Un sacré ramassis de pauvres gens. Cheveux en bataille, vêtements couverts de sang ou de suie, ils semblaient revenir de guerre ou s'être tirés de justesse d'une catastrophe naturelle. En un sens, les deux étaient vrais.
Ce n'est pas le moment de penser aux intérêts des uns et des autres. Si la ville brûle, vous y perdrez tous.
Comptant parmi les plus vieux esclaves de maison à avoir rejoint Masque Miroir, Rendel s'adressa à un petit groupe de ses camarades.
« Nous avons détruit les bassins de scrutation, pour que la souveraine Atora ne puisse plus nous espionner, mais il reste l'eau des aqueducs. »
Il approcha d'un mur où on distinguait encore les restes d'un des maudits bassins. Avec des barres de fer, quelques-uns de ses amis et lui firent sauter le bouchon du tuyau d'alimentation et le précieux liquide recommença à couler.
Des seaux, il nous faut des seaux.
Des boutiques et des maisons voisines, une multitude de gens émergèrent avec des récipients. Après les avoir remplis, ils coururent les vider sur les flammes. L'entrepôt n'était plus qu'une fournaise. Quand le toit s'embrasa, des flammes jaillirent vers le ciel, comme si elles voulaient le consumer aussi. À environ 2 heures de l'aube, dans un ciel toujours noir, les lueurs orangées du feu composaient une atmosphère de fin du monde. Les plus longues langues de flammes léchaient déjà les toits voisins. Mobilisant son don, Nietzsche généra des bourrasques qui les dispersèrent avant qu'elles aient pu faire leur office. Réduites à des gerbes de flammèches, ces lucioles mortelles volèrent dans les airs puis s'éteignirent d'elles-mêmes. Les cheveux en bataille après une nuit tumultueuse, Nathan se campait près de la magicienne. Avec un sourire confiant, il avança d'un pas.
« Maintenant que mon don est revenu, magicienne, je n'ai pas l'intention de l'économiser. »
Longtemps privé de son pouvoir, le vieux sorcier jubilait depuis qu'il l'avait recouvré. Ce bienfait, il le devait au sorcier d'Ile-Dakar, mais pour cela, le sorcier de chair André avait dû lui arracher le cœur et le remplacer par celui d'Ivan, le terrible dresseur en chef. Un protocole thérapeutique éprouvant, mais d'une remarquable efficacité. Pendant que Rendel et ses compagnons jouaient les soldats du feu, Nathan éventra une fontaine plus loin dans la rue afin de fournir davantage d'eau aux sauveteurs. Amateur d'effets spectaculaires, il canalisa le flot en une lanière de fouet liquide qu'il fit s'abattre sur le toit de l'entrepôt. Aussitôt, dans un grésillement assourdissant, des colonnes de fumée noire montèrent du bâtiment. Encore un effort et tout danger serait écarté. Invoquant une muraille d'air, Nietzsche emprisonna les flammes restantes dans une zone limitée. Euphorique, Nathan plia les doigts pour mieux sentir les flux de magie qui les parcouraient.
« Pouvoir refaire ça, c'est un sentiment incroyable !»
Les traits défaits, le propriétaire de l'entrepôt assistait à la destruction de son bien. La barbe et les cheveux bruns, il portait une tunique en soie tellement froissée et souillée qu'on eût dit une serpillière.
« Toute ma fortune part en fumée !»
gémit-il.
« Et c'est la faute des esclaves !»« Non, de l'incendie !»
corrigea Nietzsche.
« Les nobles et les négociants sont responsables des violences au même titre que les esclaves !»
Rendel tendit au marchand un seau plein d'eau.
« Si tu veux sauver quelque chose, prends ça et viens nous aider !»
L'homme s'empara du seau et, désemparé, regarda les gens qui combattaient courageusement le feu.
« On se fiche de ton entrepôt !»
grogna Rendel.
« Si on se bat, c'est pour sauver le Dakar !»
Sans ménagement, il poussa le marchand vers le lieu de l'action. Hébété, le type alla prendre sa place parmi les hommes et les femmes qui faisaient la chaîne.
« Pour le Dakar !»
marmonna-t-il, comme pour se convaincre lui-même. 15 siècles durant, la ville légendaire avait vécu sous la protection du linceul de l'éternité. Et durant tout ce temps, Thora avait tenté de créer sa société parfaite. Au fil des ans, elle avait surtout réussi à instaurer une dictature qui condamnait le peuple au désespoir. Dans leur insouciance, Thora et les autres privilégiés n'avaient pas compris qu'ils étaient assis sur un baril de poudre. Le propre mari de la Sovréna, le sorcier en chef Maxime, avait tiré parti de la situation. Se faisant passer pour un rebelle, il avait tenté de détruire la cité simplement parce qu'il s'en était lassé. La supercherie éventée, Masque Miroir avait fui alors que les émeutes faisaient rage. Pétrifié par les membres de son propre conseil, le Douma, Thora aussi était hors d'état de nuire, comme les soldats de pierre qui assiégeaient la ville depuis 15 siècles.
« Nietzsche !»
lança une voix familière. Celle de Bannon Farmer, le bouillant compagnon de voyage de Nietzsche et Nathan. En bourlinguant, le jeune homme s'était déjà un peu étoffé, mais son entraînement de gladiateur, contre son gré, l'avait développé d'une manière impressionnante. Torse nu, après son évasion de l'arène, il brandissait solide, son épée à l'aspect tristement banal. Il s'arrêta devant ses deux amis, le souffle court.
« Trois loups à pic sont en liberté dans l'allée des potiers, et ils ont déjà tué 9 personnes. Un groupe de citoyens les a acculés, mais pour la mise à mort, ils ne sont pas compétents. Moi, je n'y arriverai pas tout seul. »
« Tu n'es pas tout seul, mon garçon, » dit Lila, la jeune femme qui accompagnait Bannon. Fort peu vêtue, elle portait un pagne de cuir et une bande du même matériau protégeait sa poitrine. Sur les zones nues de sa peau s'affichaient les runes qu'on y avait imprimées au fer rouge lors de son entraînement de Morassite. Pendant sa captivité, elle avait mené la vie dure à Bannon. Désormais, un peu à contre-cœur, elle coopérait avec lui.
« Les loups à pic sont des hybrides conçus pour tuer les humains !»
dit Nathan. Une création des sorciers de chair d'Ildakar, qui ne reculait devant aucune horreur.
« Des esclaves les ont libérés pour semer la panique !»
précisa Bannon.
« À présent, nous devons les neutraliser !»«
Ce soir, » fit Nietzsche, « nous nous chargerons de tout. Montre-nous le chemin, Bannon !»
Lila sur les talons, le jeune homme partit au pas de course. En chemin, le petit groupe passa devant des boutiques fermées, des étals de cordonniers renversés et la devanture vandalisée d'une épicerie. Enfin, il déboula dans l'allée où des potiers avaient installé leurs tours et des présentoirs pour exposer leurs créations. Au bout de la voie, près du four à céramique commun, des citadins armés de bâtons tenaient tant bien que mal en respect un trio de loups à pic. Éventrés ou la gorge déchiquetée, plusieurs hommes gisaient sur le sol. Derrière les loups, deux enfants et leur mère s'étaient réfugiés dans la petite remise d'un potier. À travers la porte trop mince pour les protéger vraiment, on les entendait gémir de terreur. Un des loups, excité par ces sons, griffait furieusement le bâton de bois. Par bonheur, les citadins parvenaient à détourner l'attention des prédateurs. Approchant d'un présentoir, Nietzsche s'empara d'un vase et, mortellement précise, le jeta sur le crâne d'un loup où il explosa en 1000 éclats. Furieux, les trois monstres grognèrent, incitant les citadins à reculer de quelques pas. Main sur les couteaux qu'elle portait à la taille, Nietzsche avança, Nathan, Bannon et Lila à ses côtés. Du coin de l'œil, la magicienne aperçut une silhouette familière. Mara, sa sœur panthère. Pour rejoindre son amie, la fabuleuse féline était revenue à Ildakar, où elle avait longtemps été prisonnière dans l'arène. Désormais libre, elle n'attaquait pas les humains, une conséquence de son lien avec Nietzsche. Contrairement à la panthère, les trois loups ne pourraient jamais être capturés et apprivoisés. Nietzsche n'ayant aucune intention de les laisser semer la mort, la solution s'imposait.
« Bannon, Nathan, nous allons devoir faire ça proprement. Surtout que ces animaux ne souffrent pas. Si ce sont des monstres, ça n'est pas leur faute.
Et nous avons autre chose à faire ce soir, » renchérit Lila. Avec son don, Nietzsche aurait pu arrêter le cœur des trois loups, une manière clémente de tuer. Mais les runes qui couvraient la fourrure des monstres les immunisaient contre toute attaque magique directe. Du coup, il allait falloir agir moins subtilement. Nietzsche dégaina ses couteaux. Nathan tira au clair sa superbe lame, Bannon brandit solide et Lila saisit une épée courte. Reconnaissant des ennemis de valeur, les trois monstres chargèrent. Frappant des deux mains, la magicienne évita les crocs dégoulinant de bave d'un loup, puis lui planta un de ses couteaux dans la gorge avant de lui transpercer le cœur avec l'autre. Mra bondit sur le dos du monstre, mais ne parvint pas à le plaquer à terre. Emporté par son élan, le loup fit basculer Nietzsche sur le sol. Une griffe lui ouvrit le bras sans l'empêcher pour autant de continuer à enfoncer ses lames. Indestructible, le loup se débattit jusqu'à ce que Bannon le décapite d'un coup précis. Dès qu'elle se fut dégagée de la carcasse sanguinolente, ses armes libérées de leur gaine de chair, la magicienne se releva et jeta un coup d'œil à Nathan pour voir s'il avait besoin d'aide. Sa lame rouge de sang, le vieux sorcier avait abattu un des monstres. Avant de voler au secours de Nietzsche, Bannon avait neutralisé le troisième avec l'aide de Lila. Sa robe noire tachée de sang et de poussière, la magicienne essuya ses lames sur la dépouille du loup. La queue oscillant en cadence, Mara vint se camper près de sa sœur humaine. Sortant de la remise, une jeune femme et ses deux fillettes coururent se réfugier dans les bras d'un grand type au torse puissant.
« Nietzsche, Nietzsche !»
entonna la foule enthousiaste. Au début de cette nuit de violence, la foule acclamait plutôt « masque miroir », mais la magicienne s'était révélée une meneuse bien plus loyale.
« Nietzsche !»
lança un homme.
« Nous continuerons le combat. Tu nous as montré la voie. »« Oui !» « Nous briserons le joug des nobles !»
fit un autre type. Se tournant, Nietzsche découvrit deux esclaves costauds qui portaient la tenue caractéristique des bouchers des abattoirs à Yaxen. Comme s'ils brandissaient des trophées, les deux hommes portaient des sacs de toile rouge de sang. Un des deux, un type au front barré d'une brûlure, avança et baissa les yeux sur les carcasses des loups.
« Nietzsche, tu as tué ces fauves de combat et contribué à rendre la ville plus sûre. Nous allons continuer à affronter nos vrais ennemis.
Et vous les connaissez, vos vrais ennemis ?
Demanda Nietzsche, très mal à l'aise à cause des sacs sanguinolents. Alors que les citadins reculaient, les deux esclaves ignorant Bannon et Nathan avancèrent vers la magicienne. Puis ils ouvrirent leurs sacs et les vidèrent à ses pieds. Quatre têtes de nobles, les lèvres figées sur un rictus et les yeux grands ouverts, roulèrent sur le sol.
Des maîtres cruels !
Dit l'homme à la brûlure.
Ils battaient leurs esclaves et les maltraitaient de toutes les autres façons imaginables.
Malgré leur étincelle de don, ils n'étaient pas invincibles,
marmonna l'autre esclave. Quelques citadins approuvèrent du chef. Les autres, épuisés par la nuit de folie, semblaient hors d'état de réagir.
Même si Masque Miroir nous a déçus, dit Messire Brûlure. Ils parlaient d'or. Avec ton aide, Nietzsche, nous nous vengerons. Avant de reconstruire Ildakar, nous exigerons que justice soit faite, et désormais les esclaves gouverneront la ville.
Nathan intervint avant que Nietzsche ait pu répondre.
Par les esprits du bien, si vous voulez que cette cité renaisse, vous devrez gouverner tous ensemble. Tuer les nobles et prendre leur place vous transformera en une bande de privilégiés corrompus et cruels.
Jamais!
S'écria Messire Brûlure, indigné à cette seule idée. Furieux, il flanqua un coup de pied dans une des têtes qui roula sur les pavés comme un broc lors d'une partie de Jala.
« Mon ami a raison, » dit Nietzsche. « Je ne cherche pas à excuser les nobles, ni Thora et Maxime. Mais Ildakar est votre ville à tous, alors ne gâchez pas une occasion en or. Un dur labeur vous attend, braves gens. Moi, j'ai une mission à remplir pour le seigneur Rall. « Désolé, mais avec mes compagnons, je me suis déjà trop attardé à Ildakar. »
Même s'ils semblèrent touchés par la rebuffade, les deux esclaves bombèrent le torse, les yeux rivés sur les têtes tranchées. « Les jours prochains, » comprit Nietzsche, « les tueries ne cesseraient pas. »
Mais elle ne sauverait pas Ildakar, c'était acquis. Pas question qu'elle devienne la nouvelle Sovrena pour imposer sa vision des choses.
Vous êtes libre à présent. Essayez de comprendre ce que ça signifie. Les habitants d'Ildakar vont devoir s'autodéterminer et vivre avec les conséquences de leur comportement.
C'est le prix de la liberté, renchérit Nathan. Des heures difficiles vous attendent, mais c'est le seul moyen de construire un monde qui vous satisfera.
Après une nuit de sang, le soleil pointait à l'horizon dans le ciel de la nouvelle île Dakar. Comme la monstrueuse machine qui y trônait, la pyramide au sacrifice avait été détruite, interdisant l'apparition d'un nouveau linceul de l'éternité. Désormais, Ildakar la légendaire appartenait au reste du monde et il en serait ainsi pour toujours. Approchant de Lila, qui observait sombrement les carcasses de loups, Manon lança avec son optimisme proverbial
« Les troubles seront bientôt finis. Une fois revenus à la raison, les gens aspireront au bonheur. »
« Il leur faudra simplement se rappeler ce que c'est, mon garçon. »
fit Nathan d'un ton qui se voulait rassurant. Alors que le jour se levait, des cris retentirent sur le chemin de ronde du mur d'enceinte. Des sentinelles criaient et des cloches ne tardèrent pas à prendre le relais.
« L'alarme en cas d'invasion, » souffla Lila. « Elle n'a plus retenti depuis des siècles. »« Quelle menace peut venir de la plaine ?» demanda Nietzsche.
La sonnerie de cloches se faisant plus insistante, le petit groupe se précipita vers la muraille, Mara sur les talons. Au pied du mur, le haut capitaine Stuart accueillit la magicienne et ses amis.
« Il bouge !» dit-il, l'air sinistre. « Après tout ce temps, il bouge !»«
Qui ?»
demanda Bannon. Après avoir contourné Stuart, Nietzsche grimpa sur les remparts. Lui collant au basque, ses compagnons sondèrent avec elle la plaine qui s'étendait jusqu'au contrefort des montagnes. En arrivant à Ildakar, le trio avait découvert une immense armée de soldats de pierre. Les troupes du général Outros, pétrifiées par les sorciers de la cité 15 siècles plus tôt. À la lueur de l'aube, Nietzsche vit que les antiques guerriers s'éveillaient. Formant les rangs, certains se préparaient déjà à attaquer la ville Oni.